On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
Cette semaine, à l'émission, Ariane Beauferré retombe en amour avec les tramways. Lysliane Boily cherche les liens entre les rêves et la réalité et Brigitte Bédard s'emballe pour un nouveau mouvement hippie chrétien. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane.
Allô Simon.
Toujours en forme?
Oui, oui, de plus en plus en forme de sphère.
Ah oui? Pour quelle raison? Je pense que je m'en doute.
Pour cause de grossesse.
Ah ok, c'est pas la gourmandise.
Non, j'ai bien appris de notre dernière émission avec... Laurence.
Ben, merci d'être avec nous. Brigitte Bédard, bonjour!
Salut!
Peace, man!
Peace, Brigitte! Alors, Brigitte, t'es emballée, là, je le sens.
Oui, oui, c'est ça, je me suis... Mais c'est ma collègue, Laurence, justement, qui m'a inspirée de me déguiser un peu en hippie quand j'avais 20 ans. Ça me fait du bien. Okay, c'est pour vous parler d'un mouvement actuellement qui a lieu là, d'un revival de Jesus Freak qu'on appelait à l'époque, dans les années 70, au début des années 70, des Jesus People. Mm. Alors, il y a eu les Bold People, mais il y a aussi les Jesus People. Ça n'a pas rapport, là, mais c'est ça. Donc, je vous parle de ça.
Ah, ça va être nostalgique et actuel en même temps.
Oui, c'est ça.
Ah, en parlant de nostalgie et actuelle, Ariane Beauferré,
oui,
t'intéresses au tramway.
Ouais.
Bonjour.
Bonjour, Simon.
Alors, toi, tu viens faire un gros débat politique aujourd'hui à l'émission,
non,
c'est ça?
Non, je ne suis pas mandatée ni par la Ville de Québec, ni par la CAQ, ni par personne. Je m'intéresse au mode de transport et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à nos façons de nous transporter et parler en particulier d'un mode qui est le tramway. Donc parler du tramway tel qu'il a existé dans les années 1860, 1920, 1930 au Québec, à Québec et Montréal, puis aussi au projet actuel de tramway de la Ville de Québec.
Ça va être très intéressant en tout début d'émission. Merci d'être avec nous. Et une toute nouvelle à l'émission, Lysliane Boily, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, bienvenue à On n'est pas du monde. On est très content de t'accueillir. Et pour ta première chronique, tu as un sujet que je trouve passionnant.
Un sujet passionnant, je vais vous parler des rêves autant dans la Bible qu'on va en parler aussi là, dans la psychologie moderne. Et puis, donc, j'ai bien hâte de vous entretenir un peu plus sur le sujet.
Ben oui, on a très hâte d'entendre ça. Merci d'être avec nous, tu vas voir, ça va bien aller.
Mais on n'est pas du monde, on te le dit tout de suite.
Ariane, qu'est-ce qu'on fête cette semaine?
Bien, cette semaine, ce dimanche qui s'en vient, c'est le dimanche des rameaux.
C'est vrai?
Oui, et moi, c'est vraiment une de mes messes préférées dans l'année. Je l'avoue, c'est parce que j'aime tresser des rameaux, puis ça fait que je suis un peu moins attentive à la messe. Mais j'ai quand même une grande affection là, pour les rameaux. Puis donc, j'ai fait un petit peu des recherches sur le dimanche des rameaux, puis je suis tombée sur quelque chose de très intéressant, qui est un très vieux témoignage de la part d'une des plus anciennes pèlerines, dont on a un manuscrit qui raconte comment se faisait la liturgie lors du dimanche des rameaux à Jérusalem. Puis donc, comme ça disait que c'était l'une des plus anciennes pèlerines, je me suis intéressée à... Je ne savais pas, en fait, depuis quand ça existe, les pèlerinages, et j'avais envie de vous quizer là-dessus.
Oui, vas-y.
Selon
quizer,
vous...
Oui, c'est un nouveau verbe, ça.
Oui. Donc, selon vous, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à faire des pèlerinages? Les chrétiens, j'entends, en Terre Sainte, par exemple.
Très tôt, je pense.
Les Romains,
très tôt, comment?
Doute.
Je sais pas, le premier siècle.
Ben, j'imagine premier au Saint-Sépulcre de Jésus à Jérusalem. Ça devait être peut-être au moins quand l'Empire est devenu. L'Empire romain est devenu chrétien, là, moi je dirais autour du 4e siècle à peu près.
Ah, avant ça.
Ah ouais?
Mais non, mais les croisades.
Non, mais des grands pèlerinages, c'est sûr.
Ce sont des pèlerinages.
Oui, mais les croisades, c'est pas mal plus tard, là, Brigitte. C'est pas grave.
Alors, ben, Simon, comme toujours, là, j'ai l'impression que tu lis tout le temps mes petits post-it. Là. C'est effectivement au 4e siècle qu'ont commencé les grands pèlerinages.
C'est pas ce que j'avais compris. Dans ce
notamment
que
après l'édit de Milan, la conversion de Constantin et la découverte de la vraie croix, la Sainte Croix par sa mère, Sainte Hélène. Et donc, le témoignage dont je vous parlais, le manuscrit, est celui de Égérie ou Éthérie, qui a fait un pèlerinage en Terre Sainte pendant 3 ans, en 380 environ. Et donc, c'est un manuscrit qu'on a retrouvé dans une bibliothèque en Italie très tard, en 1884. Donc, je trouvais que c'était super intéressant d'avoir un témoignage de femme, de pèlerine, quelque chose d'aussi ancien qui racontait notamment qu'à Jérusalem, ben, il faisait la lecture du passage, comme on fait de nos jours, là, avec Jésus qui entre à Jérusalem, puis les enfants avec leur petite palme. Donc, d'où vient la tradition du dimanche des rameaux.
Ah. C'est le fun, les messes avec des accessoires. Hein? Comme à la vigile pascale, on a la petite bougie. Puis, t'en prendrais plus, les messes comme ça.
Je suis d'accord avec ça.
OK, parce que ça occupe les enfants.
Ah, oh, OK, parce qu'on a
ça tous occupe
un cœur
d'enfant.
Il y a des petits et des grands-enfants.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ah, ben, merci, comme toujours, Ariane. C'est super intéressant. Alors, allons-y avec cette émission.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Pour ou contre un tramway à Québec? La question exaspère bien des Québécois. Mais derrière ce débat qui n'avance pas vite, se révèlent d'autres enjeux beaucoup plus importants sur les conséquences collectives de nos déplacements individuels. Ariane Beauferré, doctorante en aménagement du territoire, croit que derrière son look rétro, le tramway demeure très actuel. Bonjour Ariane.
Bonjour Simon.
Alors, au-delà, là, avant de parler du tramway en tant que tel, là, au-delà du projet concret à Québec, la question d'un tramway ou d'un troisième lien, d'ailleurs.
Oui, on n'embarquera pas dans le troisième lien aujourd'hui.
pose plus largement celle des conséquences de nos déplacements. Le transport, en fait, c'est une grande part de notre vie.
Oui, c'est une grande part, une part énorme. On est continuellement en déplacement. Hein. Dès qu'on veut faire quoi que ce soit, on a besoin de se déplacer. Notre corps, à l'intérieur de nous-mêmes, on est tout le temps en mouvement aussi. Et ça a des conséquences. Et donc, selon le mode de transport qu'on choisit, bah, par exemple, ça peut affecter notre santé. Parce que selon le mode de transport, si c'est une automobile ou un vélo, bah, ça donne des polluants atmosphériques qui sont complètement différents. Ça peut entraîner des problèmes respiratoires, notamment en ville. Il y a des villes immenses. On peut penser en Chine, par exemple, à Hong Kong, où l'air est devenu complètement irrespirable, pas seulement à cause du transport, mais en partie. Il y a aussi la question de la qualité sonore. Donc, si je marche ou si je prends un autobus, ça n'a pas le même effet. Le transport urbain, par exemple, c'est la cause principale. C'est 80% du son en ville qui provient du transport qui n'est pas de la marche ou du vélo. On a aussi la question des îlots de chaleur. Donc, si on a besoin de se déplacer en automobile ou en autobus, par exemple, on a besoin de plus de routes, des routes asphaltées qui sont noires, qui vont accumuler de la chaleur en été énormément, la redégager pendant la nuit. Donc, on dort moins bien. Il y a les gens qui ont plus d'asthme. Ça augmente les maladies, la mortalité, on a besoin de plus de climatiseurs. Il y a des effets aussi qui sont sociaux. C'est positif d'avoir un transport parce que quand on n'en a pas, en fait, on a accès à moins de destinations, à moins d'opportunités. Mmh. Et donc, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'auto ou qui n'ont pas accès à un réseau, que ce soit de tramway, de train ou d'auto de bus, finalement, sont beaucoup plus limitées dans leurs opportunités. Que ce soit d'aller à l'extérieur de la ville ou quand on est en région, de pouvoir justement sortir de chez soi et de son petit village. Il y a un effet économique aussi des modes de transport. Donc, par exemple, si je choisis de prendre l'automobile sur l'heure de pointe, ben, je perds énormément de temps à me déplacer, ça produit de la congestion. La congestion qui est un problème économique aussi, ça détruit nos routes quand les voitures font du 5-10 à l'heure en permanence pendant une heure sur une autoroute. Et finalement, bah, aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux effets des transports sur l'environnement. Parce que bah, si vous avez beaucoup plus d'automobiles, ça crée beaucoup plus de gaz à effet de serre. Là, j'apprends rien à personne. Donc, ça renforce finalement le réchauffement climatique. Au Canada et particulièrement au Québec, on doit y accorder beaucoup d'importance parce que, bah, au Canada, les transports, c'est 24% des gaz à effet de serre. Et au Québec, on a l'hydroélectricité, donc on peut se dire qu'on a un effet sur l'environnement qui est peut-être moindre au niveau des gaz à effet de serre. Mais le transport demeure 43% des sources de gaz à effet de serre.
Donc, il y a tout ça. Puis en plus de ça, les autos, les trains, les tramways, c'est bien beau, mais il leur faut une voie pour accéder. Ouais. Donc, ça dégrade aussi des milieux naturels. Et quand il faut, en hiver, déclasser les voies, ben, on utilise des sels de déglaçage. Ça peut polluer notre eau. Donc, il y a énormément d'effets. Il y en a beaucoup qui sont positifs.
Ouais, c'est on a besoin. Il y en a des positifs aussi.
Il y en a des positifs.
Moi, dans ma voiture, j'écoute « On n'est pas du monde », des fois. Je trouve que c'est un moment très rafraîchissant.
Ça peut l'être. Puis ça peut être aussi un moment de discussion en famille.
Un moment tampon dans nos journées où on enfile aussi les activités les unes après les autres. Moi, des fois, j'aime ça, le petit moment un peu plus flou, je dirais, du transport. Là.
Mais j'aimerais ça, moi, qu'on fasse un petit tour de table. Est-ce que pour vous, le transport, c'est une source d'aliénation au quotidien ou est-ce que c'est au contraire un moment plus de repos, de détente, de pause?
Moi, je dois avouer que j'aime ça, mais comme je vis au centre-ville, je suis toujours en sens inverse du trafic. Donc, j'ai jamais la frustration du trafic. Puis j'ai un stationnement au centre-ville, donc j'ai pas non plus la frustration de trouver un stationnement. Brigitte,
non, mais moi, je vis sur la rive sud de Montréal. Je travaille à la maison. Mon mari travaille sur la rive sud. Tous mes enfants vont à l'école sur la rive sud. Donc, on.
T'as fait des choix intelligents.
Oui. Nous autres, on a décidé que. Mais quand j'habitais Montréal, quand j'étais aux études, ben, j'utilisais le transport en commun. C'était génial. J'habitais pas loin de l'université. Puis mes déplacements se faisaient comme ça. Mais non, ben, tu sais, pour venir à Québec, j'ai besoin d'une voiture. Mm. Donc, si je viens ici au bureau, ben, c'est 2h30 de voiture. Donc, oui, je suis contente de l'avoir, ma voiture.
Moi aussi, je suis contente de l'avoir parce que je suis en banlieue, puis les transports en commun sont des fois moins bien desservis avec,
moi,
avec la banlieue.
Vrai,
mais...
oui.
Hein, donc, je suis contente, mais je suis contente aussi de faire mes petites commissions à pied. Donc, ce que je suis capable de faire, c'est bon pour la santé, ça fait bouger, puis en même temps, c'est bon pour l'environnement. Donc, l'équilibre, je pense.
Avoir des déplacements multimodaux, bon, comme on dit, là, d'utiliser plusieurs sortes. Puis, c'est, on en a besoin, en fait. Il n'y a pas une solution. Ça aussi, c'est quelque chose... j'aime beaucoup l'encyclique Laudato si du pape François, et c'est quelque chose qui rappelle. Il n'y a pas une solution qui va fonctionner pour toutes les villes du monde en question de transport ou pour n'importe quel sujet.
Est-ce que c'est vrai, justement, Ariane, tu parles de l'encyclique plus environnementale du pape François, que le pape François a même écrit...
Et pour le tramway à Québec?
Peut-être.
Pour les transports publics,
non, mais qui s'inquiète des conséquences
tout
des
à
transports
fait
dans les
je
grandes villes.
Je peux vous lire un petit passage, c'est au numéro 153. Il va nous dire « La qualité de vie dans les villes est étroitement liée au transport, qui est souvent une cause de grande souffrance pour les habitants. Dans les villes circulent beaucoup d'automobiles, utilisées seulement par une ou deux personnes, raison pour laquelle la circulation devient difficile, le niveau de pollution élevé, d'énormes quantités d'énergie non renouvelable sont consommées et la construction d'autoroutes supplémentaires se révèle nécessaire, ainsi que des lieux de stationnement. Beaucoup de spécialistes sont unanimes sur la nécessité d'accorder la priorité au transport public. » Mais pas n'importe quel transport public non plus. Et donc, ces mesures sont nécessaires et seront à grand-peine acceptées pacifiquement par la société sans des améliorations substantielles de ce transport. Ça veut dire que ce transport ne doit pas être synonyme de traitement indigne infligé aux personnes à cause notamment de l'entassement, des désagréments ou de la faible fréquence et encore de l'insécurité.
Mais quand tu as des jeunes enfants, là, je m'excuse, mais moi, c'est là que j'ai lâché
c'est
l'autobus.
Mon cas. C'est mon cas.
Alors, c'est là que je me suis grillée d'une grosse vanne,
oui.
OK? Puis que, ben c'est ça. Alors, oui, les autobus, c'est pas family-friendly.
Essaie d'aller faire l'épicerie pour une famille avec un bébé d'un bras puis juste une
c'est
main
impossible.
Pour tous les sacs d'épicerie.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs modes de déplacement qui sont possibles, qui sont disponibles. Parce que, oui, pour quand on a une jeune famille, ça a été mon cas, j'ai été longtemps en autobus avec un ou deux enfants. Par la suite, j'ai arrêté parce qu'on a changé de lieu, la garderie était trop loin. Il y a des contextes et des préférences individuelles et elles sont légitimes, ce n'est pas un problème. Mais il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas d'options, ne peuvent pas s'acheter d'auto, ne peuvent pas prendre de taxi ou ont besoin d'un transport parce que, par exemple, sont en fauteuil roulant. On doit avoir une multimodalité. Les étudiants aussi, quand on est étudiant, si on vit en banlieue, là c'est différent, mais si on vit proche de l'université, on peut peut-être pas avoir un logement qui soit juste à côté de l'université ou de l'école, question par exemple de loyer, mais peut-être si on a un transport de 20 minutes qui est efficace, qui arrive sur les heures des cours, bah là ça devient pertinent de financer ce transport public-là.
OK Ariane, là je comprends bien que c'est pas de faire la guerre à l'automobile,
non,
mais de diversifier les opportunités de transport. L'un des transports publics qui a souvent fait là, les manchettes, je le disais ces dernières années, c'est le tramway. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné le tramway dans les années 50-60 si
question.
C'est si bon, au fond, comme moyen de transport
voilà.
public?
Alors, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce qu'on l'a abandonné? Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a eu un tramway à Québec, il y a eu un tramway à Montréal, et il y a beaucoup de villes aussi en Europe, en Amérique du Nord, qui se sont dotées d'un tramway. Alors, le tramway, il est arrivé en 1860, et il était, selon vous, est-ce qu'il était électrique à l'époque?
J'ai lu tes notes.
T'as lu mes notes?
Je peux pas répondre.
À vapeur.
À vapeur, non.
Je sais pas. Aucune.
Il était tiré par des chevaux, tout simplement. Donc, il y avait des rails et il y avait un petit tramway qui était tiré par des chevaux. Il est arrivé à Québec, à Montréal. C'était premièrement pour des intérêts privés. C'est des financiers, des commerçants qui se sont mis ensemble. Ils ont mis 50 000, 100 000 dollars sur la table. Ils se sont dit, nous, on se dote d'un tramway. Et ils ont fait des premières lignes et ça a été un grand succès. Pourquoi? Parce que le tramway, il est plus confortable que les carrosses, les calèches, les charrettes de l'époque et beaucoup moins cher. Si vous vouliez demander à un cocher de vous emmener quelque part en 1860, ça coûtait 25 cents par passager. Le tramway, c'était 5 sous. 5 sous pour aller sur la ligne. Donc, c'était très utile. Et en hiver, on n'utilisait plus les rails. D'ailleurs, les rails qui, à Québec, étaient en bois. Ça, c'est vraiment intéressant, alors qu'il y a plein d'autres endroits, c'était en métal. Et donc, en 1860, l'électricité est arrivée. Et donc là, on a commencé à installer des tramways électriques. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment plus puissant. On a un moteur, on peut avoir un plus grand tramway, avoir plus de gens à l'intérieur. C'est plus confortable, on peut aussi le chauffer. Il y avait des tramways avec même un poêle à l'intérieur. Donc là aussi, succès retentissant. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à Montréal en 1880, il y a 21 km de rails, 100 véhicules et 11 millions de passagers par an. Et en 1892, on a 84 km de rails, 93, 84 km de rails et 17 millions de passagers. Donc, on est passé de 11 millions à 17 millions de passagers en l'espace d'un an et le réseau qui a été décuplé. À Québec aussi, le tramway, il a été utile pas seulement pour les ouvriers et les résidents, mais pour sortir les citadins de la ville, pour rendre accessible, par exemple, les chutes Montmorency, pour rendre accessible Sainte-Anne-de-Beaupré. Même chose à Montréal. Le tramway servait à sortir de la ville. Et à partir du moment où on l'a relié au train de banlieue, il a permis aussi aux gens qui vivaient en région de revenir en ville, de pouvoir venir en ville faire des achats ou juste visiter les capitales. Ça s'est accéléré, ça s'est amélioré jusque dans les années 20-30 qui ont été l'âge d'or du tramway. Il y avait 513 km de rails à Montréal, 180 millions de passagers en moyenne par an. Et à Québec, on avait 12 lignes et ce qui était bien, longtemps, il y avait une ligne de haute ville et une ligne de basse ville et elles ont finalement été connectées. Et donc, quelqu'un qui habitait à Sainte-Foy pouvait se rendre jusqu'à Limoilou. Donc ça, c'était un grand changement aussi. Ça permettait finalement une meilleure cohésion dans la ville. Parce que nous, à Québec, on a le Cap Diamant qu'il faut grimper si on veut passer de la basse à la haute ville. Donc ça a permis aussi de modifier l'urbanisation de la ville, d'ouvrir aussi des nouveaux quartiers. Quartier Montcalm, quartier Saint-Sacrement, ce sont des quartiers qui se sont développés parce qu'il y avait la présence du tramway.
Marianne, est-ce qu'on n'a pas tout ça avec les lignes d'autobus aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui. Et pourquoi est-ce qu'on a quitté finalement ce tramway? On a quitté le trolleybus à Montréal, on a adopté le métro, on est passé complètement on s'est dit, l'autobus, c'est maintenant le nouveau transport moderne. Dans les années 50, en fait, l'automobile est devenue beaucoup plus abordable, appréciée de la population. Bien évidemment, on prend son auto, on peut aller un peu n'importe où. C'était révolutionnaire et on ne connaissait pas les effets environnementaux encore que ça pouvait avoir sur la qualité de l'air localement, sur le réchauffement climatique. Et donc l'autobus, c'est devenu finalement le nouveau transport moderne, beaucoup plus flexible. Les villes de Montréal et de Québec se sont beaucoup étalées et donc on avait besoin d'avoir des autobus qui soient capables de se rendre beaucoup plus loin. On ne pouvait pas financer ça avec un tramway. Et en plus, dans l'imaginaire collectif, le tramway, ça appartenait déjà au passé. C'était quelque chose d'ancien. Fallait qu'on aille vers la nouveauté, vers le transport moderne. Et aujourd'hui, c'est l'inverse.
Là, j'allais dire, aujourd'hui, la mode est au vintage, au
la
rétro.
La mode est au vintage, mais un rétro quand même qui a changé beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on revient au tramway? Parce qu'aujourd'hui, les opportunités technologiques sont différentes. Parce qu'on a aussi des intérêts qui sont différents. On veut pouvoir prendre un peu mieux soin de notre environnement. On a de la congestion routière qu'il n'y avait pas encore dans les années 50. Et le tramway, il a de nombreux avantages là-dessus. Il a été instauré dans les années 2000 en Europe d'abord. Et là, il revient au Québec et en Amérique du Nord. Alors, les avantages du tramway. Ça peut réduire la congestion en ville. Parce que si des personnes qui sont en centre-ville n'ont pas besoin de prendre leur auto et montent dans un tramway, ça fait moins d'auto sur la route. Il est plus rapide et plus confortable que l'autobus. Il est sur des voies qui sont réservées et prioritaires. Les autobus peuvent avoir des voies réservées qui d'ailleurs elles-mêmes sont parfois congestionnées parce qu'on a une enfilade d'autobus les uns après les autres. Alors que le tramway, c'est pas son cas. Il arrive à l'heure, il s'en va, il fait sa route, il est prioritaire, les intersections, il s'arrête pas. Il est moins bruyant. En ville, aujourd'hui, on a un niveau de bruit, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Comme je le disais, c'est beaucoup à cause du transport routier. Le tramway, il est moins bruyant qu'un autobus. Donc, il passe, puis on ne l'entend quasiment pas. Le bruit qu'il y a, c'est quand on va construire le tramway. Donc là, c'est problématique. Mais sur le long terme, après, c'est beaucoup mieux. Et finalement, ben, il dégage moins de gaz à effet de serre et il n'y a pas toute cette pollution aussi des pots d'échappement, donc pollution respiratoire.
Parce que c'est électrique.
Parce que c'est électrique. Mmh.
Là, je ne veux pas partir un débat, mais j'ai comme pas le choix.
Vas-y.
Mais il reste quand même que le tramway qui nous annonce ici, ben, il va y avoir des fils. Il me semble revenir à des fils, ça enlaidit la ville. Il va être surélevé à cause de l'hiver, donc les autos pourront plus tourner à gauche pour entrer dans les entrées, les commerces, des choses comme ça. Puis c'est fixe surtout. Donc, c'est, oui, c'est pas c'est aussi fixe. Flexible qu'une ligne d'autobus. Si un nouveau quartier se développe plus dans 10 ans, trop tard, la ligne, elle a été mise à tel endroit, puis elle ne peut plus bouger.
Mais ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que oui, ça peut bouger. On peut ajouter des lignes. Donc, le premier, un réseau, quand il est proposé, c'est d'ailleurs le cas ce qui est arrivé avec le métro. Le métro, on a fait deux lignes en 1966 en prévision de l'expo universelle. Ensuite, il s'est agrandi parce que la ville change. La ville change, les gens les catégories de personnes ne sont pas toujours au même endroit. Mm-hmm. On le voit aussi, il peut y avoir de la gentrification à certains endroits. Aujourd'hui, les plus démunis, par exemple, sont plus dans le quartier Vanier. Donc, la ville change et donc le réseau peut changer, même si oui, le tramway est fixe. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autobus. L'autobus est encore là. La flotte d'autobus est encore là. Et vu que le tramway il va se retrouver sur certains axes, ben, le réseau de transport de la capitale, ces autobus, il va les mettre à la poubelle. Il va juste les redistribuer dans les autres quartiers et parfois dans des banlieues aussi.
Donc, ce n'est pas la fin de l'autobus et même pas la fin de l'automobile non plus, si je t'entends
bien.
Non
plus, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer d'automobile. On ne va pas supprimer le transport automobile en centre-ville non plus. Parce que ce qui fait en sorte que collectivement, on a moins de congestion, qu'on a moins de problèmes respiratoires, c'est parce qu'on a cette multimodalité. Le tramway aussi, ce qu'il fait, c'est qu'on n'installe pas juste le tramway comme ça dans la rue, puis on fait un trou, on le met là. Non, on réaménage toute la rue. Donc, quand on réaménage toute la rue, ben, on réfléchit, OK, est-ce qu'il y a assez de place pour les piétons? Est-ce qu'on a la place pour une piste cyclable qui soit bien sécuritaire? Au niveau du déneigement, comment ça va fonctionner? Au niveau des commerces, est-ce qu'on peut faire de nouveaux aménagements? Donc, c'est une réflexion qui n'est pas juste, OK, on installe le tramway, elle est sur toute l'artère, finalement, où se trouve le tramway, on l'a réfléchi.
En terminant, Ariane, la question qui tue. Est-ce qu'au fond, le tramway, c'est pas juste un transport de bobos pour les gens cool qui ont les moyens de vivre au centre-ville?
Et qui n'ont pas de contraintes, en fait. Qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas à aller loin, qui n'ont pas à traverser les rives. Alors, en partie, et c'est très bien. Parce que ces personnes-là, qui sont plus riches, qui peuvent choisir entre l'auto, l'autobus, à pied, à vélo, ben, le tramway, la majorité, selon les sondages, elles aiment cette idée. Elles veulent prendre le tramway là où elles ne veulent pas prendre l'autobus. Donc, c'est pertinent. Ça fait encore moins de personnes en auto.
Donc, tant mieux si les bobos prennent moins leur voiture.
Tant mieux!
Bon, c'est tout le temps qu'on avait, Ariane Beauferré. Tu es une bonne avocate, je dois l'admettre.
Ah, tant mieux!
Tu es aussi doctorante en aménagement du territoire.
Ben oui, c'est ça. Hein?
Alors, merci beaucoup. Et on est ouvert à toutes les plaintes et objections.
Tout à fait.
Tu y
répondras. Écrivez-moi. J'y répondrai.
Voilà, merci Ariane.
Merci Simon.
Un rêve peut-il signifier la vérité? Un rêve peut-il même devenir la réalité? Entre superstition, psychologie et théologie, quelle juste place devrions-nous accorder à nos rêves? Leslie-Anne Boily, chargée de cours en psychologie à l'Université du Québec à Rimouski, rêve d'y répondre avec nous aujourd'hui. Bonjour Leslie-Anne.
Bonjour Simon, bonjour tout le monde.
Alors, c'est pas nouveau quand même l'intérêt que les êtres humains portent à leurs rêves. Mais ici, entre autres au Québec, là, je pense aux fameux capteurs de rêves qui viennent des peuples autochtones.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'intérêt pour les rêves ne date pas d'hier. On sait même aujourd'hui que l'homme préhistorique rêvait. On sait aussi que le fœtus rêve dès le 8e mois de la gestation.
Ouais.
Donc, on est capable d'identifier que les rêves sont là. De quoi rêve-t-il? L'homme préhistorique devait rêver peut-être de feu, de désir corporel, bon...
De chasse.
Hein? Le fœtus, lui, ben, on le sait pas trop. De ce qu'il vit,
du visage de sa mère, peut-être, hein? Qu'il n'a pas vu encore.
Qui l'anticipe.
Oh, c'est poétique.
Donc, bref, le rêve, l'intérêt pour le rêve non plus ne date pas d'hier. Puis l'intérêt aussi pour l'interprétation qu'on peut faire des rêves ne date pas d'hier. Encore plus loin que la psychologie moderne, hein, bien sûr, on peut remonter... parce que là, je viens vous parler aussi un peu de psycho, parce que c'est mon angle de vue des phénomènes.
Ouais.
Mais on peut remonter vraiment à l'Antiquité. hein, pour le premier intérêt, les premiers intérêts pour les rêves et l'interprétation. Bien sûr, quand on regarde dans la Bible, on va en parler un petit peu plus tard.
Oui, on a des bouts, des belles histoires. Ouais.
C'est ça, exactement. On en a plusieurs aussi. Puis il y a toute une série, en fait, de types aussi de songes qu'on peut regarder à travers la Bible. On a aussi des penseurs comme Aristote, hein, qui est peut-être un peu un ancêtre de la psychologie moderne, j'aime le voir comme ça, où il disait en fait que les rêves permettaient d'exprimer, hein, en fait, la voix de l'âme, permettaient de vraiment exprimer ce qu'on vit intérieurement. On peut remonter au 2e siècle après Jésus-Christ pour le premier écrit significatif qui recense comme vraiment ce qu'on appelle à l'époque l'onirocritique, donc la critique des rêves, l'interprétation des rêves. Ça a été fait par Artémidore d'Éphèse.
Jamais entendu, hein? Son nom.
Donc, Artémidore d'Éphèse. Et encore aujourd'hui, pour certains spécialistes, ça reste une œuvre inégalée dans le sens de la rigueur, de la méthode puis de l'analyse qu'il avait utilisée à l'époque pour ça. Puis plus près de chez nous, comme tu parlais, en fait, tout à l'heure, Simon, à les capteurs de rêves. Donc, le sens du capteur de rêve serait en partie, en fait, pour éloigner les mauvaises pensées, les mauvais esprits, donc pour ne pas les faire passer aux rêveurs. Donc, c'est un peu comme un filtre.
C'est un attrape-cauchemar.
Exactement. Donc, voilà.
Ça, c'est pour l'histoire, je dirais, de la science ou de l'interprétation des rêves. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que les psychologues nous apprennent sur les rêves? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre nos rêves et le réel ou le monde éveillé?
Tout à fait. En fait, dans les rêves, concrètement, il y a plusieurs théories, hein, pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on rêve de certaines thématiques la nuit. Puis une des théories dominantes, c'est qu'on aurait en fait ce qu'on appelle le traitement de l'information, des informations qu'on a dans la journée. Donc que le rêve permettrait, au-delà de toutes les fonctions biologiques du sommeil, de faire un peu le triage de qu'est-ce qui est important pour moi ou qu'est-ce que j'ai pas digéré émotionnellement aujourd'hui, quels enjeux je vis. Alors c'est un peu le sens en psychologie moderne, un des sens principaux. Donc, c'est très fréquent qu'on peut revivre des émotions, des thèmes qu'on a vécu dans la journée ou dans les journées qui ont précédé également. Donc, il y aurait peut-être un petit mariage là, entre le rêve et le réel, hein? Puis, il y a aussi au niveau des moines, ça a été investigué, OK? Donc, ouais. Les thématiques des rêves les plus fréquentes. Puis, il y a tous les enjeux liés à la présence de Dieu ou à la présence du mal dans les rêves les plus fréquents qui sont rapportés, mais aussi les préoccupations par rapport à la vie communautaire. Donc, c'est vraiment...
Comme les problèmes de couple, de famille, les relations de travail...
C'est ça, ça pourrait arriver. Puis, dans le fond, dans les communautés, ça va être beaucoup les temps, les conflits relationnels qui vont se matérialiser.
Je comprends pourquoi je rêve souvent Brigitte maintenant. Comme collègue de travail, évidemment.
Non, mais moi, je me rappelle jamais de mes rêves. Fait que
OK.
Hey, mais tu es inexistant.
C'est une bonne question. Est-ce que vous vous souvenez, êtes-vous du genre à vous souvenir de vos rêves, à leur accorder de l'importance?
Moi, rarement. Très, très rarement. Qu'est-ce que ça veut dire de moi, là? Qu'est-ce que ça veut dire de ma réalité?
Je ne sais pas, Leslie-Anne.
Il y a plein de pistes d'explications. En fait, ce n'est pas tout le monde qui se rappelle de ses rêves. Mais en moyenne, on rêverait toutes 4 à 5 fois par nuit. Donc, on ferait tous à peu près 4 à 5 fois des rêves. Puis, on s'en souviendrait plus là, du rêve, le dernier rêve du matin. Parce qu'il est plus long. Souvent, il est plus près aussi... Souvent, il est plus près de l'heure du réveil. Donc, ça peut être un des facteurs, des fois, pour se rappeler de ses rêves. On suggère, des fois, aux gens de juste mettre leur réveil une quinzaine de minutes avant l'heure qu'ils se réveillent d'ordinaire, puis peut-être que ça peut venir. Et donc, il y a plein de facteurs aussi. C'est sûr que si je me réveille pendant la nuit, je me souviens d'un rêve ou de bribes de rêve, mais que je ne l'écris pas tout de suite ou que je ne me donne pas une technique pour m'en rappeler, c'est sûr que si je me rendors après, il y a peu de chances que je m'en rappelle au réveil là, le matin. Donc, c'est tout aussi des techniques de mémoire. Puis,
Parce qu'il me semble aussi, là, on a parlé de rêves, tu sais, fort plausibles, ce qu'on vit dans la journée, notre travail, notre couple, tout ça. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de monde, là, tu sais, des fois, on fait des rêves, là, genre quand on lance des boules de feu à des chats ou, tu sais, qu'est-ce qu'on doit penser quand on a des rêves absolument absurdes? c'est lié? Comment est-ce que notre cerveau arrive à faire ça? Puis est-ce qu'on doit écarter, balayer du revers de la main? Parce qu'en même temps, je veux dire, quand on regarde dans la Bible, moi, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph qui interprète les rêves du pharaon. C'est quand même un peu pété aussi, là, ce à quoi il rêve, là. Fait comment est-ce qu'on est censé réagir par rapport à ça, là, par rapport à nos propres rêves?
Bien, c'est une excellente question. En fait, je pense qu'on pourrait peut-être la réfléchir ensemble. Une des pistes de réponse que j'ai, dans le fond, dans la Bible, on dit justement qu'il y a des rêves, parce qu'il y a beaucoup de mise en garde dans la Bible de ne pas toujours tenir compte des rêves.
Okay.
Donc, surtout dans l'Ancien Testament, je pense entre autres au Deutéronome, où c'est ça, on signale un avertissement que ça ne vient peut-être pas toujours d'une source fiable ou d'une source nécessaire. Donc, c'est peut-être pas toujours nécessaire d'interpréter les rêves, mais des fois, si on fait un rêve répétitif, des thématiques répétitives, peut-être que là, on va vouloir s'intéresser davantage. Fait que des fois, il y a peut-être pas de réponse.
Puis qu'est-ce qu'il y en a de la science? Excuse-moi, je te coupe. Oui. Là, la science de l'interprétation des rêves, je sais que je pense Freud et d'autres ont travaillé là-dessus, mais est-ce que c'est l'idée que si je rêve à un chat, hein, pour entrer dans les rêves d'Ariane...
Ta mère, probablement.
est-ce que chaque symbole aurait nécessairement une seule signification ou ça dépend un peu de chacun? Si j'aime les chats ou je déteste les chats, j'imagine que ça ne doit pas avoir le même sens.
Les pionniers là, de l'interprétation, ils ont vraiment travaillé fort pour recenser les symboliques possibles. Fait que non, il n'y a pas une symbolique possible. Ça dépend de la personne qui rêve. Ça dépend aussi de la couleur d'interprétation qu'on va prendre. Si je prends Freud, par exemple, Freud, un chapeau de paille, c'est la
sûrement...
sexualité.
C'est ça, j'allais dire. C'est le sexe tout le temps.
Tout
avec
tout
le
sexe avec lui. Perdre ses dents aussi, attention.
Ah oui,
on est dans le sexe.
Ah oui? Okay. Ah, ça, je me rappelle d'avoir déjà rêvé ça.
Puis pour Freud...
perdre ses cheveux, c'est quoi? Le sexe
ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... c'est
ça dépasse d'un chapeau de paille pendant que tu perds tes cheveux.
Donc, c'est ça. Alors, pour Freud, en fait, dans les rêves, il y a toujours un sens caché. Il faut vraiment lire à un deuxième niveau, la symbolique des symboles qui sont présents. Pour Jung, par exemple, le rêve est une voie d'accès à son soi profond. En psychologie, on va parler du soi profond, mais Jung parlait allègrement de l'âme aussi. Donc, c'est ce à quoi il fait référence également dans ses propos. Et pour Jung, souvent, les symboles qui sont présents ont vraiment un lien à faire avec le quotidien de la vie de la personne. Je peux donner l'exemple de la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé d'être dans une maison. Vous êtes dans une pièce qui est nouvelle, inexplorée, ou une pièce sombre. Bien, ça peut parler, en fait, de votre vie psychique, de votre intérieur. Donc, des pièces nouvelles, ça peut être des parties de soi qu'on n'a pas encore explorées. Si on se retrouve, en fait, dans la cuisine, bien, en fait, ça peut être qu'on a besoin de faire du ménage de certaines choses, de classer des choses. Donc, tout dépendamment de l'endroit où on est dans la maison, ça peut aussi avoir une symbolique. Et il faut que ça fasse du sens avec la vie de la personne.
Mais donc, si ça nous fait accéder à une partie de nous-mêmes ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on est responsable de nos rêves?
Alors là, ça, c'est une question de fond. De fond et d'inconscient, je dirais. En psychologie, tu sais, l'assise de l'interprétation des rêves, c'est le fait qu'on n'est pas conscient dans nos rêves puis que c'est une voie d'expression de notre inconscient qu'on vit à travers les rêves. Pour Freud... c'est toujours des désirs inconscients qui vont se manifester dans nos rêves, comme un chapeau de paille, par exemple.
Refoulées.
Des choses qui ont été refoulées. Puis que si j'en prenais conscience dans ma vie diurne, pendant le jour, ça serait trop angoissant. Donc, je le refoule ou j'utilise plein de mécanismes de défense pour ne pas y faire face dans la journée, mais ça va revenir dans mes rêves.
Mais donc, ça serait de notre faute qu'on rêve.
Inconsciemment, peut-être.
Okay. Mais des fois, on a pas
notre faute.
Mais
des rêves. C'est une libération, en fait. Je vois pas c'est quoi la faute là-dedans. Là? C'est quoi faute?
Ben, si tu rêves à ton voisin, Brigitte.
Ben, Lesliane. Tu veux dire d'un point de vue sexuel?
On va rester avec toi.
Tu n'as pas vu mon voisin. Lesliane, j'aimerais ça qu'on passe tout de suite à les rêves dans la Bible. Qu'est-ce que la théologie nous dit de ça? Est-ce que les songes de Joseph, de Jacob, des prophètes ont la même valeur que nos rêves à toi et moi au quotidien?
C'est une excellente question. J'ai beaucoup aimé m'y pencher, en fait, regarder comment... comment on peut lire les rêves dans la Bible. En fait, les rêves, souvent, ont vraiment une couleur prophétique dans la Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tu évoques Joseph, hein, Joseph qui a eu la vision de l'ange qui lui dit d'aller en Égypte pour éviter finalement un massacre où Jésus était directement visé, qui lui dit aussi de ne pas répudier Marie, sa femme. Et donc, il est à l'écoute de ce rêve-là, où un ange ou Dieu se manifeste. Dans l'Ancien Testament, Abraham donc a un songe de Dieu. Et bon, les exemples se multiplient, là, je pourrais vous en donner plusieurs. Mais en fait, dans la Bible aussi, on met en garde contre les faux prophètes, hein, les fausses prophéties, en quelque sorte.
C'est quand même un danger de penser que Dieu parlera à travers tous nos rêves.
Exactement. Donc, il y a comme un peu cette double lecture-là qu'on peut en faire, mais la Bible ne donne pas non plus de pistes ou de guides sur comment reconnaître, en fait, la prophétie de la fausse prophétie. Donc, c'est tout simplement des mises en garde. Et donc, c'est ça.
Ariane? Non, OK, désolé, je pensais que tu avais une question.
Mais en fait, c'est que dans la Bible, l'interprétation des rêves, souvent, c'est traité au niveau de l'occultisme. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, justement, trop investiguer. Puis quand on parle de rêves dans la Bible, c'est souvent des songes. Donc,
c'est ça, mais quoi, la nous, différence en tant entre un rêve, comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai fait un rêve ou un songe la nuit passée quand j'ai vu un ange?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous interpréter ça aujourd'hui?
Ouais.
Qui aide les autres à interpréter les rêves?
Oui.
Il y aurait plein de directions, je pense que la chronique, on pourrait prendre ensemble.
On a bien des questions.
Ah, oui. Mais je pense que l'interprétation aussi, si on regarde un auteur contemporain dont je vais vous parler un petit peu tantôt, aussi Toby Nathan. Bien, Toby Nathan, lui, dit que l'interprétation du rêve se fait à travers la parole d'un autre. Donc, on va recevoir l'interprétation de la part d'une autre personne. Puis, il y a une logique à ça. Si je fais un rêve, puis je m'en vais voir un psychanalyste, il va me parler psychanalyste. Si je fais un rêve, je m'en vais voir un prêtre catholique, il va me parler aussi de la vision, donc de l'interprétation plus à la lumière de la Bible, à la lumière de son registre. Fait que c'est ça, je pense.
Donc, il y a plusieurs interprétations possibles.
Oui.
Bon, en tout cas, ce ne sera pas plus tard que tu vas nous en parler parce que c'est déjà terminé. Une prochaine fois.
Il y a une série qui s'en vient. Là. C'est évident. Là. Moi, je le sens. Là.
Leslie-Anne Boily, tu es chargée de cours en psychologie à l'Université du Québec à Rimouski. À Rimouski.
Oui,
on dirait que ça sonnait bizarre dans ma bouche.
C'est très bien.
Merci beaucoup et je te souhaite de faire de très beaux rêves, Sophie.
Merci, vous autres aussi.
Jésus est-il le premier, le plus grand de tous les hippies? Peace and love, amour et paix, après tout, sont au cœur de ses enseignements. Notre chroniqueuse Brigitte Bédard, toujours hippie dans l'âme,
Amen.
Se demande si ce mouvement des années 70 n'est pas en train de renaître chez des chrétiens aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas, Brigitte?
Oui!
Alors, c'est quoi là, ce nouveau phénomène?
J'ai fini ma chronique.
Explique-nous où, quand, comment est-ce que le mouvement hippie, voire hippie/chrétien, sera en train de renaître?
Regarde, c'est pas que c'est le mouvement hippie qui est en train de renaître, même malgré mon accoutrement. J'ai le goût de revenir à quand j'avais 20 ans, là, je m'habillais comme ça. Là. Mon inspiration première, c'était Janis Joplin. Je connaissais pas Jésus dans ce temps-là. Mais je me rends compte aujourd'hui, avec la relecture de ma vie, que toutes mes tripes d'acide, de LSD, de coke, toutes mes tripes de mushroom, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais Dieu. Et c'est ça, c'est à la relecture de ma vie que c'est un film qui a déclenché cette réflexion dans ma vie. Je suis allée voir le film Jesus Revolution, qui est encore au cinéma, courir pour le voir, même s'il est mal coté par Mediafilm, on s'en fout. Ils l'ont coté 5, mais je suis vraiment pas d'accord avec leur cote. J'ai vraiment le goût des appeler et de chialer, critiquer. Parce que c'est un excellent film. C'est Jonathan Roumi, celui qui joue Jésus dans The Chosen. Là. C'est lui qui fait Lonnie Frisbee. Et il y a... donc, c'est l'histoire comment que je vous résumerais ça là, brièvement. Donc, on est dans l'Ouest américain, à San Francisco. Dans les années 70, il y a Greg Laurie qui suit les traces d'un groupe de jeunes hippies. C'est un gars qui étudie à l'école militaire, qui se dirige vers la Californie. Il espère trouver la paix, le peace and love, gna gna gna, et tout ça. Et il commence à consommer, il fait des trips d'LSD et il fait un méchant bad trip à un moment donné, comme arrive à peu près, comme est arrivé dans les années 70 à l'été de 69, que justement, il y a eu tellement de, pas 69 à 67, à San Francisco, il y a eu tellement 200 000 jeunes hippies qui se sont rassemblés là, qui ont expérimenté des drogues, les LSD, tout ça, qui ont fait tellement de bad trips qu'il y a une grosse partie de ces jeunes-là qui ont fait des bad trips épouvantables, qui se sont retrouvés dans une église grâce à Lonnie Frisbee, qui était un gars, un ancien héroïnomane qui a connu Jésus dans un Coffee Jesus pas très loin dans l'est des États-Unis et qui est arrivé à San Francisco, là où se retrouvaient tous les hippies. Et lui, il s'en va voir un pasteur de cette époque-là. Et il rencontre, puis lui, le pasteur, il capote parce que son église est vide, puis c'est plate. c'est un baptiste, là. Tu sais, c'est une gang de baptistes, on est dans le monde protestant, mais ça ressemble à quelques messes ici, catholiques, que tu rentres, puis t'entends les criquettes. C'est plate à mort. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Jésus, il est mort, tu sais, Jésus, il est mort.
Non, fait que, Jésus n'est pas mort.
Ben c'est ça, mais t'as l'impression des fois que quand tu rentres dans une église, que Jésus, il est mort, tu sais. Fait que lui, il rentre chez ce pasteur-là, puis il lui fait prendre conscience. Il a cette phrase qui m'a rentré dedans quand j'assistais au cinéma. Il dit au pasteur, la recherche dans la drogue de tous ces hippies que tu vois, là, parce que le pasteur, il est scandalisé de tout ça, évidemment. Il dit, ils cherchent quelque chose. Ils ont une recherche, ils ont une quête existentielle. Puis là, le pasteur, il le regarde et il dit, mais quoi? C'est quoi? Tu sais? Mais il dit, c'est Dieu. Comment tu peux ne pas voir que ce qu'ils cherchent dans leur cœur, c'est Dieu? Mais ils cherchent tout croche.
Même chose aussi avec l'aspect sexuel, je dirais, du mouvement hippie. Ils cherchent la communion, ils cherchent l'amour.
La libération sexuelle. Donc, on cherche l'extase, on le cherche. Donc, c'est très inspiré par les spiritualités orientales à l'époque. Faut se remettre à l'époque de 1967, là, quand Beau Dommage chante en 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Mais c'est ça. Mais à San Francisco, c'était l'année de Summer of Love. C'est vraiment comme ça que maintenant on l'appelle. Et à cause de justement à tous ces jeunes-là qui vont faire toutes sortes d'expérimentations, il va y avoir des bad trips. Puis il va y avoir, on va déchanter, tu sais. Il va y avoir beaucoup d'overdoses, il va y avoir des agressions sexuelles, il va y avoir des grandes désillusions. Et c'est l'histoire donc de ce gars-là qui s'appelle Greg Laurie, qui se retrouve à l'église et qui décide. Eux autres, ils baptisaient dans le Pacifique. Rien de moins. Ils s'en vont, c'est à la beach. Ils sont tous nu-pieds, là, des vrais hippies, là. Les gros cheveux longs, les barbes, les foulards, puis c'est comme ça. Et leur salut, c'est comme ça, Jesus one way. Il y a une façon d'être heureux, il y a une façon d'expérimenter l'extase, il y a une façon de trouver le sens à sa vie, et c'est Jesus one way. T'sais. Fait que ce gars-là, il s'avance dans le Pacifique, puis là, le hippie preacher Lonnie Frisbee, qui est mort du sida il y a quelques années, là, il dit, t'as-tu choisi Jésus dans ton cœur? Fait que là, Greg, il dit... Non, je ne suis pas certain. Il dit, veux-tu décider maintenant? Il dit, il y a un temps pour décider. Veux-tu décider maintenant? Il dit, OK, oui, j'ai choisi Jésus. Tu sais, c'est parce qu'il y a une belle blonde qui court après. Puis, tu sais. Mais Dieu, ici, comment venir nous chercher? Fait qu'il baptise dans le Pacifique et c'est en dessous de l'eau qu'il rencontre Jésus. Wow. Et il va devenir ce gars-là, Greg Laurie. Il est actuellement un des plus grands pasteurs américains évangéliques. Là, tu sais, là. Donc, c'est basé sur une histoire vraie, cette histoire-là. Mais tu vois, c'est comme, dans le fond, ce qu'on réalise en regardant ce film, c'est que à cette époque-là, les jeunes cherchaient un sens à leur vie. Ils contestaient l'ordre établi. Il y avait une contre-culture très forte. C'est là que, tu sais, en 67, là, All you need is love sort. Je veux dire, tout sort. Tu sais, là,
c'est une société aussi qui était déjà très avancée dans le matérialisme, dans le consumérisme.
Oui, oui, oui.
Puis eux, ils cherchaient autre chose que juste le confort.
C'est ça. Donc, ils cherchent, ils sont outrés du matérialisme américain. Ils sont outrés de la guerre au Vietnam. Donc, ils veulent contester tout. Et ben ils jettent tout par-dessus bord, tu sais, c'est ce qui est arrivé avec ce qu'on appelle les 68 heures là, c'est toute cette de ça est né un renouveau. Faut pas oublier que le renouveau charismatique que l'Église catholique a connu,
oui,
ben il vient des pentecôtistes aussi, hein. Donc c'est tout du monde là qui ont la foi en Jésus, qui sont nés de cette contestation là, parce que Dieu fait tourne au bien toute chose, même ce qui paraît mal, ce qui paraît démoniaque, parce qu'on ne peut pas dissocier le psychédélisme, l'occultisme de cette époque-là, la naissance aussi du satanisme, de l'Église satanique avec une pignon sur rue en 1966, tu sais, 966 en tout cas, tu sais. Fait que c'est comme ça vient tout ensemble, et de là naît ce qu'on appelle les « Jesus people », qui est le renouveau, puis tellement, ça fait tellement effet, mm-hmm, que ça fait la une du Time Magazine en 1971, qui s'appelle The Jesus Revolution. C'est un journaliste du Time Magazine qui fait la une du Time avec ce titre-là, et c'est lui qui baptise ce mouvement hippie. Puis les jeunes qui se sont convertis à Jésus partent en mission un peu partout à travers l'Amérique pour... Ils sont venus à Toronto, ils sont venus à Montréal pour dire « Jesus loves you » avec des grosses pancartes de One Way, le signe, le salut. Donc, toutes les phrases qu'aujourd'hui on entend « Jesus freak », ça vient de là, ça vient tout de cette époque-là. Et c'est là que le Newborn Christian, le mouvement Newborn Christian a pris son essor, et c'est là que le renouveau charismatique aussi, que les chrétiens appellent aujourd'hui le renouveau charismatique, toutes les communautés nouvelles ont pris leur essor. C'est tout au début des années 70, c'est exactement à cette époque-là. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le lien avec tout ça?
Bien là, c'est ça que j'allais te demander.
Parce qu'il faut vous mettre
là,
en contexte.
Là, tu nous racontes un film d'une histoire vraie, mais toi, tu sens que ça peut renaître ou que ça a déjà commencé à renaître.
Actuellement, c'est que aujourd'hui, je pense que les jeunes se cherchent énormément, tellement qu'on ne sait plus quel sexe qu'on est. On ne sait plus, on veut plus, on cherche son identité, ça c'est clair. Et que ce qu'ont découvert ces hippies-là à cette époque-là, eux autres ici, ils cherchaient un sens à leur vie, ils cherchaient une identité, bien c'est dans le Christ qu'ils l'ont trouvé. Et puis aujourd'hui, au début de l'année 2023...
OK, donc très récemment.
Très récemment, du 8 février au 23 février, il y a eu deux semaines de louanges sans arrêt, 24 heures sur 24, dans une université du Kentucky qui s'appelle Asbury, l'université d'Asbury au Kentucky. Et il y a eu 50 000 jeunes sur place et des millions d'autres via les réseaux sociaux qui ont assisté à ce « revival » maintenant qu'on appelle...
C'est comme la pastorale universitaire qui avait organisé ça?
Pas du tout. Ben, en fait, c'est qu'à tous les mercredis, dans cette université-là, qui est une université pentecôtiste, il y a le mercredi matin une heure de prière obligatoire dans le cursus scolaire. Comme tous les mercredis, tout le monde y va. Sauf que ce 8 février-là, pourquoi? La gang de jeunes qui étaient là, une quinzaine de jeunes, a continué à prier alors que d'autres s'en allaient.
C'était-tu la semaine d'examen?
Je me suis demandé qu'est-ce qui est arrivé avec leurs études. Bon, j'ai pas été aussi loin dans mes recherches, mais la prière n'a pas arrêté. Et là, il y a d'autres étudiants qui sont revenus comme genre dans l'après-midi. Et là, il y avait encore une gang plus grosse qui chantait. Toutes des louanges, des chants de louanges qu'on connaît, de Hillsong, de tout ça, de Chris Tomlin, blablabla, tout ça. Ça chantait. Puis là, tout d'un coup, ça s'est mis à grossir. Puis là, ça a grossi. Puis là, les gens sont restés là. Puis là, ils sont mis à dormir là. Puis là, il y en avait qui ont amené de la nourriture. Là, après ça, ils ont mis ça sur TikTok. Ils ont mis ça sur Facebook. Là, ça s'est mis à grossir.
Ben oui, j'ai vu des vidéos de ça. Moi, je pensais que c'était un scam, là, carrément.
Ben, moi, je pensais ça au début. Mais là, quand le Washington Post fait la nouvelle avec ça. Fox News fait la nouvelle avec ça. Le New York Times fait la nouvelle avec ça. Là, tu te dis, OK, il y a quelque chose là, qui se passe. Et ça a duré 2 semaines de temps.
Il a même fallu que l'université, à un moment donné, dise, ben là, il faudrait peut-être vous retourner à vos cours.
Oui, alors là, les autorités de l'université ne voulaient pas arrêter ce qui, l'Esprit Saint, parce que pour tout le monde, c'était évident qu'il y avait là une effusion de l'Esprit Saint qui était en train de... qui prenait, là. Ils ont dit, mais arrêtez pas, mais prenez ça, prenez ce feu-là, puis allez le porter partout, un peu comme les Jesus Freaks de l'époque en 67. Donc, c'est ce que les gens ont fait, c'est ce que tous les étudiants ont fait. Ils sont partis dans leurs universités et ont commencé des groupes de prières comme ça. Et là, c'est en train de se répandre partout. Mais moi, là où je vois le momentum, oui. Tu veux, toutes les conditions gagnantes, c'est qu'au début de l'année, il y avait eu une folie furieuse sur TikTok sur comment ne pas te louer, qui a été vue à des milliards. Tu sais, la toune, « Comment ne pas te louer? » Toune
On connaît bien.
C'est ça, tous les milieux catho connaissent ça. Ben, ça a fait le hit des milliards de vues sur TikTok, mais des milliards, là, des milliards de monde qui croient même, qui n'ont même pas la foi. Donc, l'année 2023 a commencé avec ça. Après ça, il y a eu le revival, la Asbury Revival. Après ça, un petit peu plus tard, le 23 février, ça arrête le revival à l'université. Cette même journée-là, c'est cette journée-là que Jesus Revolution sort au cinéma. Ah bien, gardons, tu sais, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe là, là. Puis après ça, bien là, il y a plusieurs... Il y a eu la série de Chosen qui a commencé à faire des petits. Puis là, il y a des groupes de prières partout. Puis après, là, il y a les JMJ qui arrivent cette année. Puis l'année passée, il y a eu le premier festival Jésus à Paris-le-Monial en France.
J'y étais, Brigitte.
J'y étais, hein, c'est ça. Alors, on voit...
Je fais partie de la nouvelle révolution chrétienne.
Ben, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait malgré... tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut critiquer de la société, il y a quelque chose qui est en train de se vivre. Et c'est pour ça que je dis, ben, peut-être que c'est un renouveau, peut-être qu'il y a quelque chose qui est
par
en train...
Par la louange aussi, hein?
Oui,
ce que
par
je
la
remarque.
Louange et ce qui est fait étonnant par l'œcuménisme. Ça veut dire que dans ce mouvement-là, on interdit à tout le monde de dire de quelle église tu viens. On ne veut pas le savoir. Ce qui nous unit, c'est Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Puis je pense que tous les chrétiens s'entendent là-dessus.
Puis est-ce que c'est vrai que même le cardinal catholique de New York a été positif de ce moment-là?
Oui, il dit « Ce qui me réjouit, c'est que tout cela n'était pas planifié, mais spontané. Ce n'était pas quelque chose de chorégraphié ou d'anticipé. » Donc, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les évêques, les églises, les prêtres, les curés qui font ça. C'est le monde ordinaire. Puis surtout une génération Y, qu'on dit la moins religieuse de toutes les générations aux États-Unis. Donc, c'est la base qui est la vraie Église, finalement.
Amen, Brigitte. Amen. Alors, merci. Tu es journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Et n'oublie pas que l'ivresse de l'Esprit-Saint est plus puissante que celle de toute autre substance. Restez avec nous au terme de l'émission dans un instant avec notre tour de table culturelle.
Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celle à venir.
C'est l'heure de nos suggestions culturelles pour bien se laisser cette semaine. Alors, Ariane, pour continuer, plus de controverses sur le tramway?
Oui, toujours plus de controverses. Alors, s'il y en a qui veulent approfondir toutes les questions du transport en commun en général pour la ville de Québec, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec ». C'est un politologue, un économiste et un sociologue, en fait, qui écrivent chacun différents chapitres et donnent des perspectives sur toutes les controverses qu'il y a eu sur les 20 dernières années. Donc, le tramway, le SRB, qui est le service de transport rapide par bus qui a été abandonné, le troisième lien, donc est-ce que c'est un tunnel, est-ce que c'est un pont. Donc ça permet de faire un tour d'horizon. Par contre, il ne parle pas vraiment de ce qui a pu se passer dans le siècle dernier. Et donc là, je suis tombée sur deux bijoux qu'on ne peut trouver maintenant plus qu'en bibliothèque. C'est un ingénieur qui s'appelle Jacques Farran et qui a écrit des livres. Ça se lit comme un roman sur les tramways. Donc, les tramways de Québec et à la belle époque des tramways pour les tramways de Montréal. Très intéressant.
Merci beaucoup, d'images. Ariane. Comme toutes les suggestions, on les met toujours en lien sur notre page Facebook et YouTube. Lysliane Boilly, si on souhaite approfondir la science ou en tout cas l'interprétation des rêves, quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu nous suggères?
Oui, je voulais rester dans la cohérence justement des rêves et de la réalité. Donc, je vous propose la nouvelle interprétation des rêves de Toby Nathan. Toby Nathan, il est ethnopsychiatre. Puis, en fait, il essaie vraiment d'intégrer dans sa perspective d'interprétation, en fait, des disciplines très, très variées. Donc, c'est vraiment une lecture super intéressante. Ça se lit très facilement. Là, je l'ai lu en quelques heures seulement. Puis, il a une vision vraiment bien à lui. Pour lui, en fait, un rêve qui s'évanouit, c'est comme un fruit qu'on n'a pas cueilli. Puis, tiré aussi du Talmud, un rêve qui n'est pas interprété comme une lettre qui n'a pas été lue.
Ah, très intéressant. En tout cas, ça me culpabilise un peu. Je me dis que j'ai bien des fruits à cueillir. C'est pas vrai, ça me culpabilise pas. Brigitte Bédard.
Oui, alors c'est le livre de Neil Lozano qui est... le titre est « Délié, guide pratique de la délivrance ». Alors, c'est pas le guide pratique pour prendre du LSD, là. C'est le guide pratique justement pour se délivrer, parce que si on a une quête spirituelle, c'est parce qu'on cherche qui on est, on cherche un sens à sa vie. Et il explique très bien que la vie spirituelle est souvent un combat contre la tentation, le mal, les ruses et séductions du malin. Mais combattre contre qui, combattre comment, malgré tous nos efforts, nombre d'entre nous ne cessons de lutter contre les mêmes péchés, les mêmes dépendances, retombant souvent déçus dans leur recherche de liberté. Bien, c'est un guide pratique, hein? C'est une démarche personnelle qu'on fait avec quelqu'un ou soi-même. C'est vraiment un très bon livre disponible chez Renaud Bré très facilement.
Délié, on va aller lire ça.
Délié.
Merci Brigitte. Ariane Delacombe.
Oui, moi j'ai une proposition technologique.
OK, oui.
Par rapport au livre ici, c'est une série de webinaires
sur
le thème de la doctrine sociale de l'Église catholique comme un antidote pour la polarisation. Hmm. Donc, il va être question de culture woke, d'écologie et même de division à notre époque. Donc, des thèmes très actuels, très intéressants. Trois webinaires qui vont avoir lieu dans les prochains mois.
Si on veut en savoir plus, comment on fait?
Il faudra aller sur le site de CAP Canada, qui n'est pas l'Association des producteurs de pétrole, mais bien un organisme catholique. Je pense qu'à partir du lien qu'on va mettre, ça va être la meilleure façon d'y accéder.
Super. Merci beaucoup, Ariane, et merci à vous tous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Delacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.